Juste rapidement, 30 secondes.
Alors, for those who don't speak English.
C'est comme une espèce de soupe inexplicable.
We are, you are in their heart.
The ralliement. Can exprime their point of view.
Especially.
We are, we are in.
Voici une enfant.
C'est
une
question aussi importante que le cul
ta voix. Parfait, merci beaucoup de ces précisions.
Hey, Abraham! Suzanne, tu me lèves bien, elle me l'a dit, bonjour!
Mais je suis allé de me faire chier sur un bord.
Tu sais pas qui avec Flash, que j'en pense.
Puis de me faire écœurer sur l'autre.
Du soleil, quelque part, c'est un jeu. Okay. C'est le petit truc que c'est, là.
Ils t'entendent pas, là, le chicane est poigné.
Ma part me fait cracher dessus, oui.
Ça, c'est
Hey John, fais un montage avec Pauline Marois.
Oh oui!
J'ai montré ce que c'est le Québec en anglais.
Oh oui, oui!
Oui, qui dit non, mais elle avait raison, la mairesse, c'est bien pour ceux qui parlent pas anglais, tu sais. Et quoi, on
va faire un job à matin qui m'aide, qui va m'expliquer en bas du pont du Québec.
Wake up!
From 9 to 1, you're listening to
Wake Up!
With Ismaël Tripagny.
Wake up!
Yeah. 11h46 minutes, vous êtes dans le show Wake Up, Ismaël Tripagny. Ah, c'est la dernière?
Oui,
ouais. C'est triste. Oui. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas les au revoir, Madame Delcamp.
Voilà.
Mais il faut prendre congé à un moment donné pour se ressourcer aussi.
Tout à fait.
Et je crois, bon, enfin, on l'espère tous, que vous reviendrez au mois de septembre.
Bien sûr.
Mais
pas de problème, et je n'interviens que sur Rockick.
Merci, c'est très gentil.
Mais je vais dire d'ailleurs à la fin. Hein,
oui.
Parce que j'ai vraiment un contrat d'exclusivité. Donc ceux qui se serviraient d'un enregistrement quelconque, on les attaque en justice.
Oui, c'est garanti. C'est très clair. Sauf le consentement de Rockick ou de vous.
Bien sûr.
C'est clair qu'il y a des poursuites qui vont être engagées, ça. Vous avez ma parole et aussi les auditeurs ont entendu
voilà.
Ceci. Alors, mis à part le fait qu'on prend congé, on va aller boire probablement une pina colada, Jonathan. je sais pas. Je disais ça comme ça. De quoi pourrions-nous parler aujourd'hui?
Je voudrais justement.
Oui.
Intitulé mon sujet, je l'ai intitulé d'ailleurs.
D'accord.
L'islam n'a qu'un seul visage.
Oh.
Parce que j'avais déjà fait l'islam a deux visages,
oui.
Pas deux visages, c'est un article dans Liberty Vox, mais là je continue sur cette lancée. L'islam n'a qu'un seul visage et ce n'est pas du tout un visage d'amour, de douceur, de paix pour ceux qui ne sont pas musulmans. Envers ceux qui ne sont pas musulmans, ah non, c'est pas un visage d'amour. C'est ce que dit très clairement la sourate 48, verset 29, qui dit « Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont violents envers les mécréants, miséricordieux entre eux. » Muhammad Rasulullah, « Walazina ma'ahu ashida'u alad kuffar » Malheureusement, les partisans du dialogue avec les musulmans refusent de voir la vérité des textes. Et en particulier, je vais taper sur certains, le rabbin Josi Eisenberg. Il est un rabbin libéral chez nous, il est gentil, mais c'est dans un récent numéro d'Information juive, ça s'appelle Information juive, hein, pour excuser la dureté musulmane, dit « Mais toutes les religions abrahamiques sont sévères avec les mécréants. » D'abord, cette expression « religion abrahamique » n'a aucun sens. Et c'est ce que remarque Jacques Ellul, E2LUL, dans un livre assez génial, « Islam et judéo-christianisme, PUF 2004 ». En effet, dire « religion abrahamique », Jean du Livre, les trois religions monothéistes, nous sommes tous des fils d'Abraham. Ce sont des expressions plus idiotes les unes que les autres. Et en effet, nous sommes tous fils d'Abraham a aussi peu de sens que dire, par exemple, nous sommes tous fils d'Adam. Et parler des gens du livre, c'est encore plus stupide. Pour les chrétiens, ça passe pas par un livre. Ça passe par Jésus-Christ. Et puis le nazisme aussi avait un livre. Les nazis sont les gens du livre. Mein Kampf. Et les maoïstes aussi. Alors, dire nous sommes tous monothéistes, alors là, c'est l'argument le plus idiot, je ne vais même pas m'attarder là-dessus. Le christianisme, avec son truc, la Trinité, c'est pas du tout monothéiste. Mais toutes ces expressions sont en fait des phrases du discours musulman. Et bizarrement, juifs et chrétiens en adoptent le vocabulaire.
Ah oui ?
C'est un début de soumission.
Okay.
Pourquoi ils nous imposent leur vocabulaire ? Ce qui n'a aucun sens pour nous.
Les juifs et les chrétiens, là, c'est ça. Ok.
Ah bah oui. Et c'est-à-dire que nous, on n'a jamais dit, on n'a jamais parlé des gens du livre. On ne dit pas, nous sommes tous des monothéistes. Nous ne disons pas, nous sommes tous fils d'Abraham. Il y a là quelque chose qui me gêne beaucoup, d'autant plus que leur Abraham, votre père, hein, vous, Ismaël.
Tout à fait.
Leur Abraham, c'est un faux. Or, justement, il y a des intellectuels juifs, comme David Ben-Tata, B-E-N-T-A-T-A, qui vit en Israël.
D'accord.
Ou le rabbin français Michel Serfati, qui se laisse totalement avoir, totalement récupéré par la rhétorique de certains musulmans. Parce qu'il y a en Italie un musulman qui s'appelle le Cheikh Abdul Palazzi, P-A-L-A-2-Z-I, ce qui est extrêmement malin. C'est le Chebel italien.
Dites-moi, Madame Delcam, Cheikh Fati, vous l'écrivez comment exactement?
Alors, c'est le Cheikh, alors Cheikh, C-H-E-I-K-H,
oh, oui,
le Cheikh,
okay, oui,
le Cheikh, comme ça,
oui.
Abdul, A-B-D-U-L,
okay.
Et Palazzi, P-A-L-A-2-Z-I. Vous savez qu'il est issu d'une très grande famille italienne, hein, une famille noble, qui a même donné beaucoup de serviteurs au pape, vraiment,
okay.
C'est une famille extrêmement... Et il est converti. Il est converti.
Oh, belay, ouais.
Eh oui, eh oui. Et ce Abdul Palazzi, il fait des dégâts extraordinaires parce qu'il a une façon de parler. Comme c'est un ancien chrétien, il présente l'islam comme si c'était une religion, vous voyez, christianisée. Alors, revenons donc. C'est pour ça que je dis, cet homme vraiment fait du tort à... Enfin, bah oui, sans le vouloir, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, l'expression religion abrahamique, elle n'est pas acceptable pour un non-musulman. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la sourate 3, versets 67 ou 60, il est dit, Abraham n'était ni juif ni chrétien.
Oh.
C'était un soumis. Et comme le mot soumis, oui. Ça se dit musulman.
Musulman.
Eh bien, certains, les traductions sont obligées de mettre « Abraham n'était ni juif ni chrétien, c'était un musulman. »« Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan musliman. » Or, pour l'islam, et c'est ça qui met que les gens, les braves juifs qui s'imaginent que le dialogue islamo-judaïque est possible, pour l'islam, les bons juifs, ce ne sont pas du tout les juifs qui pratiquent consciencieusement le judaïsme. Pas du tout. Les bons juifs, ce sont ceux qui croient dans le message de l'islam et qui acceptent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que les juifs libéraux comme David Ben-Tata se mettent ça dans leur tête. D'ailleurs, c'est très clair. Vous avez dans la sourate 5, verset 64, si je le lis, je trouve ceci. Alors là, c'est très, très clair. Les juifs ont dit, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, etc. Ses deux mains à Dieu sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut, etc. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur, etc. Alors, on continue. Et ensuite, nous avons jeté inimitié et haine entre eux jusqu'au jour de la résurrection.
C'est laquelle, c'est la 64?
Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le verset que j'avais déjà cité.
Ok.
Alors, David Ben-Tata, vous croyez que ça arrive à le convaincre? Pas du tout. Il dit, mais non, ce sont les mauvais juifs qui sont cités ici. Et il donne comme exemple le verset suivant, si les gens du livre, le sourate 5, verset 65, si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. et également le verset 66, ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile, et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et ce qui est sous leurs pieds. C'est-à-dire les commentaires, ils auraient joui de la pluie du ciel et des richesses de la terre. Or, monsieur Ben Tata, s'il commet cette erreur, c'est qu'il ne connaît pas l'arabe. Alors, nous, nous sommes là sur Rocky pour justement apprendre l'arabe.
Voilà.
En arabe, il y a trois sortes de si. Il y a le si. Quand je dis, par exemple, si je mange, je suis malade.
Ok, ok.
Et j'emploie le mot Isa. Isa. Isa, à quel tout ? Maritou. C'est-à-dire, chaque fois que je mange, quand je mange, je suis malade. C'est okay. À peine une conditionnelle. Le deuxième si, c'est le in. In a quel tout maritou, c'est-à-dire si je mangeais, je serais malade.
Ok, ok, le deuxième.
Condition. Et le troisième si, c'est là où a quel tout la maritou. Si j'avais mangé, j'aurais été malade. Mais ce n'est pas fait, c'est soit irréalisé, soit irréalisable. Je dis par exemple, là où kuntu rani yatan la banaitu daran jamila. Si j'avais été riche, j'aurais construit une belle maison. Mais je ne l'ai pas été. Or, si je regarde les deux versets, je vois, voilà où anna ahlal kitab amanu wa ittaqaou. Si les gens du livre, juifs et chrétiens, avaient cru et avaient été pieux, eh bien, voilà, ils auraient eu. Mais ce n'est pas le cas. Or, voyez, l'erreur de ce monsieur juif Ben Tata, c'est que lui, il dit, ah mais voilà, il y a les bons juifs, ceux qui pratiquent la Torah, et nous on sera sauvés avec les musulmans, main dans la main, et ce sont les mécréants de toutes les religions, qui eux iront en enfer. C'est gentil, n'empêche, pour nous.
Très gentil, oui.
Ce que les musulmans cachent aux non-musulmans, c'est que la Torah et l'évangile dont il est question dans le Coran, ce n'est pas leur Torah, ni les évangiles chrétiens actuels. Non, 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 non.
Et qu'est-ce que c'est ?
C'est la Torah et l'Évangile non falsifiés, non corrompus.
Okay.
La Torah et l'Évangile qui sont dans le Coran, mentionnés dans le Coran. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la vraie religion aux yeux d'Allah, enfin, c'est l'islam. Et l'islam a repris les religions précédentes, mais les religions précédentes non corrompues et non falsifiées par leurs adeptes.
Ok.
Vous voyez, la vraie religion aux yeux d'Allah, c'est l'islam, et vous ne pouvez connaître ce qu'est la vraie Torah et le vrai évangile que dans l'islam, que dans le Coran. D'ailleurs, c'est tellement vrai, la vraie religion aux yeux d'Allah, c'est l'islam, et un hadith qui dit, vous voyez, c'est-à-dire une parole du prophète, tout enfant naît dans la religion naturelle qu'est l'islam, ce sont ses parents qui en font un juif ou un chrétien. Qu'en est-ce chez vous de jeunes animaux ? Leur trouvez-vous le nez ou les oreilles coupées, à moins que vous ne les leur ayez coupées vous-même ? C'est-à-dire que les parents, en rendant leur enfant juif ou chrétien, ils abîment leur enfant.
C'est ça,
ils
c'est
le
ça.
Dénaturent, ils lui coupent la queue et les oreilles. Et ça, c'est grave. Quand vous avez quelqu'un, quelque chose...
C'est très barbare.
Un animal ou un enfant, vous le laissez naturellement, dans sa prime nature. Vous n'allez pas lui couper le zizi,
ben
ou lui couper un bout d'oreille. Eh bien, quand les parents font de leur enfant un juif ou un chrétien, c'est ce qu'ils font, ils l'abîment. Et c'est tellement vrai que le chiisme considère que le musulman n'a pas à examiner les religions qui ont précédé la sienne. L'islam lui dit toutes les religions précédentes sont en quelque sorte automatiquement abrogées et confirmées par la loi islamique.
Madame
Elles
Delcam.
Sont plus utiles.
Madame
Elles
Delcam.
Sont remplacées. Vous savez, c'est comme quand il y a un modèle d'ordinateur, c'est automatiquement remplacé par un modèle plus performant.
Madame Delcam, dites-moi, les juifs pratiquent la circoncision. Est-ce que les arabes le font aussi ? Est-ce que les musulmans le font aussi ?
Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ils le pratiquent aussi, mais c'est pas considéré comme une obligation, mais c'est une pratique considérée comme une pratique immémoriale, une pratique séculaire.
Ok. Parce que dans le fond, vous m'expliquez dans le fond que les juifs, on parlait de couper justement les morceaux par rapport au fait si vous l'élevez juif ou si vous l'élevez chrétien. Je me demandais si les musulmans pratiquaient un peu le même, mais ça n'a pas la même signification, c'est ça que vous
non,
me dites.
Non, d'abord c'est pas tout à fait pareil, et après vous allez voir l'opération qu'ils pratiquent. C'est-à-dire que pour eux, je continue, vous allez voir que vous aurez tout à fait raison, dans la sourate 48, verset 29,
d'accord.
Il dit que, cette sourate 48, verset 29, dit que les musulmans sont comme des épis de blé qui font le plaisir du semeur, telle est leur image dans la Torah et dans l'Évangile. Alors vous dites, attendez, là, quelle Torah et quel Évangile? Comment pourrait-il y avoir l'image des musulmans dans la Torah et dans l'Évangile, puisque l'islam est venu après? Mais c'est qu'il ne s'agit pas de la Torah et des Évangiles tels qu'ils sont pratiqués, qui sont considérés par les musulmans comme déformés. La Torah que lit M. Bentata ou le rabbin Michel Serfati, c'est pas ça que le musulman considère. C'est la vraie Torah, le vrai évangile tel qu'ils apparaissent dans le Coran. Autrement dit, la vraie Torah et le vrai évangile sont musulmans. Le Coran croit à l'éternelle vérité des éléments de Torah et d'évangile qu'il contient. Il n'y a pas de vision historique en islam. L'islam est intervenu et automatiquement, toutes les religions qui le précédaient, l'islam les a parfaites, vous voyez, ça a parfait, ça a confirmé. Et c'est une c'est cette opération de chronologie renversée, d'usurpation d'identité, qui est totalement hallucinante, que ne peut pas comprendre le non-musulman. L'islam ne remplace pas les autres religions. En vérité, il est les autres religions, il est l'ensemble, c'est-à-dire que c'est le tout. Ce qui fait que les juifs et les chrétiens, qui sont pas musulmans, qui sont non soumis à l'islam, eh bien les pauvres, ils se trouvent dépouillés de toute origine et de toute identité. Ils n'ont plus de prophètes, ils n'ont plus de message vrai, ils sont égarés, c'est ce qui est dit dans le Coran, ils sont égarés, dans l'ina, ou fidolalin mubin, ou dans un égarement évident. Dieu est en colère contre eux. Et c'est pour ça que ça vous explique que pour l'islam, les mécréants sont des chiens d'infidèles. Mais s'ils acceptaient le message de l'islam, s'ils reconnaissaient le prophète Mohammed, alors là, ils seraient bénis. Et l'erreur des juifs, qui sont partisans du dialogue judéo-islamique, c'est de croire qu'ils vont garder leur religion. Non, si les musulmans étaient sincères, et bonsoir, nom de Dieu qu'il soit un jour, ils diraient devant tout le monde, parce qu'ils le disent dans leur réunion, le Coran, la Torah et l'Évangile, ce sont des écritures faussées, fausses.
Fausses, ok.
Pour trouver la vraie Torah, le vrai évangile, il faut se reporter à ce qui est dit de la Torah et de l'évangile dans le Coran. C'est extraordinaire. C'est ça l'erreur.
Oui, effectivement, c'est très extraordinaire comme vous le dites, Madame Delcarme. J'ai ici un auditeur qui nous demande, eh ben, il y a donc sûrement des musulmans qui ont été éliminés lors de l'Holocauste, n'est-ce pas? C'est une question, hein, Madame Delcambre. Il y a sûrement des musulmans qui ont été éliminés lors de l'Holocauste, n'est-ce pas?
Ce qui veut dire quoi exactement?
Je me demande dans l'espace-temps où est-ce qu'il voulait poser sa question par rapport aux musulmans qui auraient été éliminés lors de l'Holocauste. Attention, à cause de la circoncision, c'est ça?
Non, c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Je veux dire que les musulmans, ce qui est grave, et ce qu'ils n'osent pas dire tellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les trois religions, le judaïsme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ils reconnaissent les chefs, les prophètes bibliques,
okay.
Mais ils ne les reconnaissent pas, ils les rendent musulmans, ils les ont rendus musulmans. C'est quand ils disent, par exemple, Abraham n'était ni juif ni chrétien, c'était insoumis. C'est la même chose pour Jésus, qui est un prophète, c'est-à-dire que le musulman pense qu'il est la dernière des religions, mais aussi la première, celle qui existait de toute éternité. C'est-à-dire que Dieu, tout d'un coup, s'est rendu compte qu'il fallait, en quelque sorte, remplacer ce qui devenait, comme les juifs et les chrétiens commettaient des graves erreurs, qu'il fallait remplacer ça par une religion parfaite, qui viendrait clore, qui viendrait sceller, qui viendrait terminer tout cela. Et dans l'islam, tout est contenu et la dernière religion devient en fin de compte la première, celle qui existait et qui a toujours existé de toute éternité. Ce qui fait que, à la limite, le chrétien qui voudrait à la limite être sauvé aux yeux de l'islam et le juif, il faut qu'il reconnaisse Muhammad. C'est ce qui est dit dans le Coran, donc à la limite qu'il soit musulman. À partir du moment où vous reconnaissez le message du prophète, et vous devenez musulman. Et si vous vous soumettez, et c'est ce qu'ils veulent.
On devient musulman. Oui, mais on devient musulman à cet instant-là.
Oui, c'est-à-dire qu'il suffit c'est très simple d'entrer dans l'islam. Il suffit d'accepter d'attester Ashhadu an la ilaha illallah, d'accepter qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet, que Muhammad est le prophète d'Allah. C'est tout. Il y a une profession double de foi. Je reconnais que Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est ça. Et je reconnais que Muhammad est le prophète de Dieu.
Alors
voilà, double reconnaissance.
Alors
à ce moment-là, vous êtes insoumis, soumis à Dieu, bien sûr.
Alors on méprise à 100% ceux qui ne pratiquent pas, ben ceux qui pratiquent la religion islamique méprisent à 100% ceux qui ne la pratiquent pas. Mais par contre, ce que vous êtes en train de me dire, c'est simple comme ça. On fait en sorte que la personne puisse rentrer facilement, puisse s'intégrer facilement,
si elle
désire, basculer de ce côté de cette religion-là. Pour être certain d'avoir le maximum d'individus.
Allez-y. Vous expliquer pourquoi.
Allez-y.
Parce que c'est vrai qu'il y a un grand désir de prosélytisme. Les musulmans ont un certain amour. Ils sont très attachés à leur prophète et très attachés au message coranique. Donc, ils ont l'impression d'avoir la vérité avec un grand V. Donc, laisser les gens avec un message corrompu, franchement, c'est un peu comme pour eux laisser quelqu'un qui a faim et ne pas lui ouvrir la porte en disant « Viens partager avec nous notre repas ». Vraiment, faut pas. Il y a de leur part une réelle bonne foi. Non, sincèrement. En disant « J'ai la vérité ». Pourquoi ne voulez-vous pas la reconnaître? Nous sommes les derniers et en même temps nous englobons tout et nous sommes à la limite au-dessus de tout. Parce que il y a à la fois tout est compris et tout est amélioré et tout est parfait et tout est parfait dans le sens de parfaire, hein, et tout est complété et tout est, voyez, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas qu'à partir du moment où ils ont récupéré, si je puis dire, islamisé et intégré toutes les autres traditions, ils ne comprennent pas qu'on refuse comme ça. Et là, refuser de manière violente, parce qu'encore refuser en s'interrogeant, on aura peut-être que petit bémol, mais refuser de manière violente, ça, ils ne le comprennent pas. Vraiment, sincèrement, en toute bonne foi, hein. Faut pas non plus... voyez?
Est-ce que... J'aimerais ça que vous me parliez un peu du verset 48, je pense que c'est sourate 29 ou quelque chose comme ça. Je voudrais pas vous induire en erreur. J'espère que je me trompe pas là. Mohamed est le
Très bien, bravo Ismaël. C'est la sourate 48, verset 29.
C'est ça, ok.
Mohamed est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont violents envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Mohamed Rasulullah, walladina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar, ruhama'u bainahum. C'est très très net ça. Hein?
Oui.
C'est-à-dire que ils seront très durs envers celui qui refuse la lumière.
Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.
Ben oui, mais c'est quand même assez inquiétant parce que ça part d'une volonté en disant c'est dans le Coran, à travers tout le Coran. Je suis venu, je vous ai averti, je vous ai montré la voie, je vous ai donné des signes. Et vous, comme de gros teubés, comme de grosses bêtes, vous refusez la lumière divine. Alors là, on vous a donné mille fois l'occasion de vous informer, on vous a donné plein de signes et vous ne voulez pas. Ah non, attendez, là, ça va pas ça. Vous vous cramponnez à l'erreur, et quant aux mécréants, n'en parlons pas. Ceux-là, ils grilleront avec dans l'enfer. Mais je voudrais parler, si j'ai le temps,
oui,
de la première école musulmane. Ça, c'était donc, pour les juifs, dialogue judéo-islamique.
Oui.
Moi, je les appelle de grosses autruches. Et j'ai fait plein de caricatures.
Oui, j'ai vu. C'est très beau. j'ai beaucoup aimé.
Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, maintenant, je voudrais, parce que ce sont les musulmans traditionnels qui ont raison, bien sûr, pas le Abdul Paladzi qui raisonne un ancien chrétien, un aristocrate ancien chrétien. Bon, maintenant, je voudrais parler de la première école musulmane de la ville de Québec. Pour laquelle les musulmans québécois font la quête, car c'est ça, hein?
Oui, tout à fait, ils demandent des petits dons, là. S'il vous plaît, donnez généreusement, nous avons besoin de nous ressourcer.
Voilà, ils citent le Coran 2, sourate 2, verset 274, « Ceux qui dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. » الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. Et le besoin actuel, c'est pour que l'école démarre en septembre prochain, Oui. Eh bien, pour que l'école démarre, pardon, elle est de 50 000, besoin actuel, 50 000 dollars. 50 000
c'est,
dollars, justement.
Bon, ça, je pense que c'est 100 000. C'est 100 000, 100 000, 100 000 dollars.
Oui, mais pour commencer, j'ai cru voir que c'était 50 000 dollars dans le
c'est
poste d'éclairage.
C'est possible, Mme Delcombe, je n'ai pas les informations devant moi.
Alors, comme le Canada est multiculturel, on répondra, ouais, mais regardez, il y a bien à Montréal deux écoles ouvertes par des Juifs Lubavitch. Et vous avez chez vous une journaliste de chez vous, là, Émilie Dubreuil.
Oui.
Qui a fait un reportage sur une école juive, la communauté des Lubavitch. Hein, les Lubavitch, une des cinq grandes communautés juives orthodoxes, hassidim, qui se sont installées à Montréal en 41. Et en 1941, vous voyez, c'est deux écoles dans le quartier Côte-des-Neiges, l'une pour les garçons et l'autre pour les filles. Et Émilie Dubreuil, elle a interrogé le rabbin Silberstein. Évidemment, elle ne s'en prive pas, car vous êtes un petit peu étrange, vous, au Canada. Elle ne se prive pas de dire, ouais, le look qu'ont les Lubavitch, la barbe, un chapeau noir des années 30, même s'il a un téléphone portable. Et elle est choquée, la chère Émilie Dubreuil, elle est choquée parce qu'elle dit, c'est vrai, c'est un peu étrange. Ils pensent encore que le soleil tourne autour de la Terre, ils sont à la 5000, je ne sais pas combien d'années. Et les matières séculières, l'enseignement séculier est moins considéré que l'enseignement obligé d'étudier la Torah. Ils sont vraiment dans leur bulle. Hein. Seulement, moi, c'est pas pour les défendre, je m'en fiche des Lubavitch, je pense que c'est une minorité parmi les Juifs. Oui. Je les trouve très drôles, j'ai encore jamais vu les Lubavitch avec leur chapeau, effectivement, des années 30, comme dit Émilie, et avec leur barbe et leur petit truc, leur rouflaquette, truc là, aller jeter des bombes contre les gens et planter un couteau entre les omoplates. Hein. C'est pas leur style. Oh. Mais, ben non.
Mais oui.
Moi, j'ai beau, par exemple, à Paris, il y a un quartier près du cimetière du Père Lachaise où il y a des Lubavitch. Ils arrivent, c'est sûr qu'ils sont ils ont un look marrant, mais jamais, ils ne feraient un quelconque geste agressif. Ils ne sont pas violents, et d'autre part, ils ne cherchent pas à convertir. Même s'ils pensent que les goyes, c'est peut-être pas, comment dirais-je, même s'ils ne les aiment pas démesurément, eh bien, on s'en fout. Qu'il soit, que moi je tombe devant un rabbin le jour de Shabbat et qu'il me laisse crever, je me dis au moins il me fout la paix autrement. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur bulle, ils ne présentent aucune menace. Alors les musulmans disent, en écoutant évidemment ce genre de reportage d'Émilie Dubreuil là, ils disent, mais pourquoi nous n'aurions pas nos écoles comme les juifs, comme les catholiques? Et vous savez ce que je leur réponds? Dites-moi, mes amis, il y a déjà eu le cas de l'école Abrar d'Ottawa. A-B-R-A-A-R. Et il y a eu une enquête que l'on a faite. On a constaté que dans l'enseignement, ils prônaient le meurtre des Juifs et la guerre sainte. Eh oui, c'est bien ça. Moi, je dis ce qu'on n'ose pas dire. Que les Lubavitch aient, en quelque sorte, le look de Pinocchio... Et qui s'amuse à dire, on veut pas la théorie de l'évolutionnisme, on veut pas, vous voyez ce que je veux dire, on veut que une école pour les filles, une école pour les garçons, que les filles elles aient des robes jusqu'à je sais pas quoi et qu'elles se mettent quelque chose sur la tête. On s'en fout que leur look soit un look du XVIIe siècle. Le problème c'est que, un, je le répète bien, ils n'ont jamais posé de problème de terrorisme
voilà.
Dans les pays où ils sont allés, dans les pays européens. Et d'autre part, ils n'ont jamais posé de problème de prosélytisme. Quand j'interroge un rabbin en disant, s'il vous plaît, monsieur le rabbin, comment ferais-je pour me convertir? Il va m'envoyer en me disant, la porte sans même me regarder.
C'est vrai.
Ben oui. Oh oui, mais ça c'est bon, parce que à la limite, ils restent entre eux. Tandis que... lorsque les autres veulent une école, il y a ce qui est contenu dans le Coran et il n'y a pas de message d'amour et de paix pour le non-musulman. Ça pose problème et je vais vous dire pourquoi ça pose problème. Non seulement avec l'enquête de l'école Abrar d'Ottawa, mais en France, dans l'enseignement public, l'islam a changé beaucoup de choses. Et je suis allée prendre le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale qui était remis au ministre François Fillon et qui s'intitule « La vérité sur l'islam à l'école ». Eh bien, c'est un rapport très long. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, des choses pas réjouissantes du tout.
Je peux avoir une copie de ça?
Oui, bien sûr, je peux vous l'envoyer. Oui, il faudrait que je... Oui. Ah, une copie... je vais essayer de vous l'envoyer par mail, de le retaper. Ou alors, il faudrait que je... Ouais. Ou alors que je vous l'envoie. On va voir comment.
Tout à fait.
Voir.
Exact.
C'est tout un rapport. La vérité sur l'islam à l'école. Mais je vais essayer de vous faire parvenir. On va discuter après, hors antenne, comment je le fais.
Oui.
Pour vous faire parvenir.
Exact.
Et que trouve-t-on dans ce rapport? Les régressions de la condition féminine. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de filles voilées, même si elles enlèvent leur voile à l'école. Hein, bon. Et c'est surtout sur les vêtements qu'il règne un véritable terrorisme. Pas de jupe, pas de robe courte, pas de maquillage, un pantalon large style jogging, une tunique qui couvre les fesses, évidemment. En classe, quand les filles vont au tableau, elles mettent leur manteau afin que les garçons ne louchent pas sur les fesses et ne disent pas « Oh, t'as vu, la meuf, elle est bonne !» Surtout, de plus en plus, la mixité est critiquée. C'est-à-dire, okay, il ne faut pas que les garçons rencontrent les filles au cinéma, dans les centres sociaux et dans les salles de sport.
Mais qui essaie de castrer comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça
mais
part...
attendez, il y a de plus en
ça
plus
de
mariages traditionnels,
oui,
forcés ou arrangés. C'est-à-dire que dès 14 ou 15 ans, la fille, elle quitte l'école.
Oh,
les grands
non.
frères se sentent une autorité sur leur sœur, parce que si elle se rebelle, ils la cognent, ils la frappent.
Ouais, c'est vrai.
Alors vous me direz, c'est dans le Coran, ils ne veulent pas l'admettre. C'est dans le Coran pour les femmes. Mais quand c'est pour les femmes, vous voyez, c'est-à-dire que ça donne une, si je puis dire, une culture, c'est la base d'une culture. Et puis, je vous dis pas, avec les parents d'élèves, les tensions sont de plus en plus grandes avec les responsables. Les mères voilées, elles arrivent voilées, parce que le voile, elles n'ont pas l'obligation de l'enlever, et les gens ne savent pas qui est derrière le voile. Vous voyez, elles ne sont pas reconnaissables. Quand le chef d'établissement est une femme, certains pères refusent de lui serrer la main ou même de lui adresser la parole. En plus, l'obsession de la pureté, elle est maladive. Il y a deux robinets dans les toilettes. Parfois, l'un est réservé aux musulmans et l'autre aux français, entre guillemets. Mais pour la nourriture, là, vous avez, c'est vraiment un show. Les cuisiniers et les gestionnaires des établissements se trouvent devant une nouvelle difficulté.
C'est malade.
Refus
c'est
par
malade.
Un nombre croissant d'élèves de consommer toute viande non abattue selon le rite religieux.
Ah, et voyons, là.
Eh ben oui. Alors, certains chefs d'établissement, ils sont vraiment, ils s'arrachent les cheveux. Certains disent, il n'y aura que des menus végétariens. D'autres mettent du poisson à tous les repas. Un proviseur a cru bon d'imposer la viande halal à tout le monde, et le gestionnaire a démissionné. Dans d'autres établissements scolaires, on sépare entre musulmans et non-musulmans. D'autres disent que ça sera de l'agneau pour les musulmans et du porc pour les chrétiens. Et bref, c'est un véritable casse-tête. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le calendrier et les fêtes. Noël énerve les musulmans. L'arbre de Noël est contesté. Les élèves disent, pas de raison que vous mettiez un arbre de Noël, c'est une école laïque. Quant à eux, ils s'absentent le jour de l'Aïd el-Kébir, la fin du pèlerinage, hein, c'est la grande fête.
Ouais.
Et ils s'absentent à la fin du carême, la fin du ramadan, l'Aïd el-Sérir, la fête, la petite fête. Et c'est tellement vrai que dans certaines écoles où les musulmans sont majoritaires,
oui,
eh bien, les professeurs se trouvent parfois devant une classe quasiment vide. De plus, le mois de ramadan est un mois de tension, on trouve des crachats par terre, mais il y a autre chose, c'est ce prosélytisme. C'est-à-dire que les gens... Les musulmans, qui ne voudraient pas faire le ramadan, eh bien, quelque part, il y a des gens qui disent « Comment tu fais pas le ramadan ?» Et « Comment tu fais pas le ramadan ?» C'est-à-dire que les élèves ont peur, certains vont manger dans les toilettes, on achète la paix sociale, personne n'ose parler,
Conna.
Et certains élèves, même chrétiens, font le ramadan pour ne pas avoir de problème.
Ouais,
et je ne vous parlerai pas non plus d'un autre problème, l'antisémitisme et le racisme. C'est devenu une injure courante que de dire, non pas juif, mais feuge. Vous voyez, c'est le mot juif renversé.
Feuge, ok.
Feuge, F-E-U-J-E.
Ouais.
C'est-à-dire que les élèves juifs, si on découvre qu'ils sont juifs, quelque part ils sont un tout petit peu en danger d'être tabassés et tout, surtout avec l'affaire israélo-palestinienne. C'est pour ça que les parents, de plus en plus, les mettent dans des écoles privées. Car c'est vrai qu'il y a un mépris, une haine des Juifs exacerbée par l'affaire israélo-palestinienne. Mais ce n'est pas uniquement l'affaire israélo-palestinienne, parce que dans le Coran, il y a ça qui sous-tend le Coran, le Juif est considéré, le Juif, attention, le Juif qui ne s'est pas converti à l'islam, bien sûr, le Juif est considéré comme un chien. Et puis, je vous parle pas également dans les écoles, dans le rapport, des contestations politico-religieuses. C'est-à-dire que la Palestine est un idéal, Oussama Ben Laden est un héros, et quand on leur demande « qu'est-ce que vous êtes ?», ils répondent « musulman ». Ça devient une nationalité. Quant au programme, ça rejoint un peu les Lubavitch, non, pour les lettres et la philosophie, c'est infernal. Il y a le refus de certaines œuvres et de certains auteurs. Voltaire, non. Rousseau, non. Molière, non. Madame Bovary, non. Et quand on veut enseigner le fait religieux, de dire, écoutez, nous allons étudier le christianisme, le judaïsme, les élèves disent, non, il n'y a pas de raison, on n'a pas à étudier ces religions. Quand on parle de l'édification des cathédrales, vous savez comment les cathédrales au Moyen-Âge ont été construites, ils disent, non, il y a des élèves qui font semblant, ils se mettent à parler, les élèves musulmans, ils n'écoutent pas. Quand on parle des religions avant l'islam, vous savez, les religions pré-islamiques, le zoroastrisme, le chamanisme, ils disent arrêtez, ça n'existe pas, l'islam, avant l'islam il n'y avait rien. C'était la jahiliya, c'était l'ignorance. Et quand ce sont des questions sensibles concernant les croisades, le génocide des juifs, les guerres israélo-arabes, la question palestinienne, certains enseignants ne veulent même pas en parler tellement ils ont peur dans les couloirs d'être tabassés. En éducation civique, la laïcité, il ne faut pas en parler parce que c'est considéré comme anti-religieux.
On me demande, Mme Delcamp, via le live@rocket.com, que pense Mme Delcamp des propos du député Éric Raoul qui a traité les jeunes filles habillées courtes, bien sûr, de putes. Et je précise, Raoul est élu dans une circonscription, étrangement, fortement islamisé, qu'il a déposé un projet de loi, c'est ça, pour interdire le blasphème.
Et je veux répondre. Moi, je pense, alors ça, je les appelle ça les autruches.
Ouais.
Ils meurent de trouille. Ils fondent dans leur froc. Ils ont terriblement peur. Vous savez, je connais même des enseignants, je vais dire. Ils ont deux solutions devant eux. Soit ils terminent leur carrière calmement, sans problème. Ils achètent la paix. En disant, on évite tout motif de, vous voyez ce que je veux dire, de froisser les musulmans. J'ai même vu mieux. J'ai vu un policier, un jeune policier, il a dit, si vous saviez ce qui se passe dans le 9-3, dans le 93,
oui.
Vous savez, il a dit, mais moi, j'ai pas du tout envie d'aller, de faire des rondes la nuit. Il a dit, j'ai envie de toucher ma retraite. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que les gens qui commencent à dénoncer les vérités, ce que vous ne savez pas non plus, dans certains établissements, ils engagent des grands frères pour pouvoir évidemment être assistants sociaux, etc. Ces grands frères eux-mêmes encouragent à faire le ramadan, encouragent les filles à porter le voile, encouragent la pratique de l'islam. Et les professeurs, qui ne sont pas tous des officiers ou des policiers, qui vont, ils n'ont pas envie de trouver leur pneu crevé pour leur voiture, de se trouver tabassés en allant prendre le métro. Donc ils se disent, on veut la paix. Et pour avoir la paix, ils ferment leur gueule.
Madame Delcamp, je vous trouve très courageuse de venir comme ça, depuis le début, discuter comme du Coran.
J'ajoute qu'en mathématiques, même le symbole de la croix est refusé.
En plus.
Vous disiez, oui. Je suis courageux. Je vais vous expliquer pourquoi.
C'est des sangs, bitch.
Je pense que, en France, je ne pourrais pas dire ce que je dis. Et je tiens à préciser que
ah oui?
Je ne le fais que sur votre radio. Donc, s'il y avait une radio qui faisait passer mes propos au Canada ou ailleurs, ce n'est certainement pas moi. J'ai fait une intervention sur Radio Courtoisie avec Reichmann, un point, c'est tout. Mais en ce qui concerne, ou dans une radio juive, mais ça c'était avant d'être sur Rockick. Mais si c'est au Canada, ce n'est absolument pas moi. On peut faire des enregistrements trafiqués, mais ce n'est pas moi parce que j'ai un contrat d'exclusivité avec Rockick, et par conséquent j'aimerais bien que ça soit respecté. Sinon, moi, je vais devant les tribunaux. Hein. C'est pas normal de prendre des... Ceci dit, je pense qu'il faut bien qu'un jour, les gens, il faut bien... Enfin, montent au créneau. Enfin, ce que je dis, je m'excuse, je n'invente rien. Je ne cherche pas du tout à dénaturer. Je dis, pour moi, qui suis de tradition catholique, oui. Eh bien, ça m'emmerde de voir un paysage culturel qui s'islamise lentement, progressivement, et avec la complicité des cons de ma confession, de ma religion, de ma confession, de ma, etc. Et même à la limite de ces gens de droite achetés, super achetés, collabos, connards, autruches, et à qui vraiment je souhaite qu'ils connaissent le pire des sorts.
Mais ça fait un bout que je vous avais jamais demandé ça. Est-ce que vous avez, depuis que vous faites vos interventions sur rocket.com, est-ce que vous avez eu des menaces physiques?
J'ai eu deux problèmes d'élèves, je vous dis la vérité. J'ai
oui.
eu un élève libanais chiite qui avait une très 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 grande admiration pour moi et qui est tombé sur Rotik et qui est tombé sur le site aussi LibertyVox. Et il y a deux choses qui les choquent énormément. D'abord,
ouais.
israélien. Ça, un site pro-israélien ou défendre Israël, pour eux, c'est absolument impensable. Et d'autre part, que je m'appelle l'imam bombe.
Ouais.
C'était dire que pour eux, leur professeur est vu comme étant de leur côté. Quelqu'un qui enseigne l'arabe, qui est l'ourat al-jannah, qui est la langue du paradis,
oui.
ne peut pas pactiser avec les autres. Vous voyez, c'était donc, il confie au professeur d'arabe ce qu'il ne confierait pas à d'autres.
Alors, on est.
En revanche, je dois dire pour être très simple, il y en a un, et un Algérien qui est pour l'intégration et qui, à la limite, a dit vous allez empêcher les gens de s'intégrer. En revanche, j'ai eu la sympathie de certains élèves algériens kabyles qui, à la limite, vous savez, l'assassinat qui s'est passé en Algérie. De leur héros, de leur chanteur adoré, qui a été assassiné, hein, vous connaissez. Matoubounès, je ne sais pas exactement, enfin bon, je ne connais pas son nom exactement, mais il a été assassiné. C'est quelqu'un qui a des propos extrêmement durs concernant ce qui se passe dans l'islamisation de l'Algérie. Et alors, c'est vrai que quelques musulmans, sont très très contents, nous écoutent, hein, d'Algérie ou d'ailleurs, parce que ça leur donne une bouffée d'air frais. Attention, le problème aussi, c'est qu'il y a une chape de plomb qui s'abat. Donc, parmi mes élèves, il y a à la fois le côté, on a un prof célèbre qui ose parler, etc. C'est plutôt eux, vous voyez, il y a deux tendances. Ceux qui sont très religieux ne sont pas très contents. Ceux qui sont, disons, plus attachés tout ce qui est radio, rock, parce qu'il ne faut pas oublier que s'ils suivaient l'islam à la lettre, pas de musique, hein, pour eux, pas de musique, pas de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est
ouais.
tout un... Alors là, ceux-là, il y en a quelques-uns qui sont des fanas de rock et de musique, etc., donc ils n'accepteront jamais d'être de revenir à l'époque de Médine et de vivre comme des bédouins dans le désert à l'époque au 7e siècle. Donc il y a les deux. Mais dire que j'ai eu des menaces, non, aucune.
Physique, zéro.
Non.
Ok.
D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Ouais. Je vais raconter quelque chose d'incroyable. Ils ont réalisé quand même, s'attaquer à une femme, ça serait pas très glorieux.
Non.
Parce que soit ils ne réussissent pas, et alors c'est eux, c'est un coup pour rien. Soit ils réussissent, et je vous dis, s'attaquer à quelqu'un, un homme, etc., bon, mais là, franchement, je ne fais que dire, je ne fais en quelque sorte que de porter à la connaissance du non-musulman les vérités de leur religion.
Tout à fait. Mais il y a même pas de menace de poursuite, ça non plus?
Non.
Non, parfait. Madame Delcamp...
Non, parce que, je vais vous dire, ils l'ont fait pour Houellebecq.
C'est ça.
Ils se sont aperçus qu'en ayant, c'est ce qu'a fait le recteur David Boubacar contre Houellebecq.
Okay.
Ça lui a fait une publicité extraordinaire. Ça a été des droits d'auteur et des ventes et connus. Houellebecq, dont les écrits n'auraient peut-être pas été tellement connus, ça a été vraiment extraordinaire comme publicité pour lui. Alors les musulmans se disent, il vaut mieux ne rien dire. C'est plus, plus raisonnable que de faire la publicité de gens qu'on attaquerait.
On nous demande ici via le live @rocky.com, Madame Delcambre, si vous pouviez nous parler du fait que certains gauchistes, par haine de la culture judéo-chrétienne, soutiennent toutes les revendications des musulmans, nourriture, voile, etc. Pouvez-vous
c'est
nous en
très
dire
vrai, ça.
C'est spécial.
Là, je vais vous dire une chose que j'appellerais le marxisme culturel.
Ok.
C'est pour ça que l'avatar de Pistache sur notre forum, il est extra. C'est-à-dire, moi, je suis ni pour l'islamisme, ni pour l'islam, ni pour le marxisme, ni pour le nazisme. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est vrai, c'est très vrai ce qui est dit, c'est qu'il y a des sales gauchistes de merde qui, par une sorte de haine de la culture... Il y a un très bon article, d'ailleurs, sur LibertyVox, concernant, justement... Les séquelles, non pas, si, ce sont les séquelles du marxisme, qu'on peut appeler le marxisme culturel. À savoir qu'ils cherchent vraiment à détruire, et évidemment, avec l'islam, provisoirement, car c'est une alliance provisoire, chacun espère gagner sur l'autre, les deux compères se tiennent par la main en se disant, on va manger l'autre au dernier tournant. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Mais il y a une alliance, qui paraît une alliance contre nature, mais qui n'est pas tellement au fond, entre le totalitarisme musulman et le totalitarisme marxiste, ils se disent marchons ensemble pour détruire le côté, la civilisation judéo-chrétienne et le libéralisme d'inspiration judéo-chrétienne, et ensuite eh ben, les deux renards se mangeront entre eux, mais provisoirement ils se donnent la main. C'est tout à fait vrai ce qu'a dit votre intervenant.
Ok.
Et c'est pour ça que je suis très gênée, parce que moi je suis comme vous anti-religion.
Je crois pas à ça. On a encore ce matin, moi et Jonathan, écouté un passage. C'est sûr que là, on va parler de secte, mais c'était Raël qui a passé en 91 sur une chaîne de télé. Je me souviens plus exactement c'est quoi. Mais ça n'a pas de bon sens.
Ben non, pas du tout.
Ça n'a pas de sens de voir comment secte et religion, c'est la même putain d'affaire. Que ça fait simplement brainwasher les gens, lavage de cerveau et par-dessus lavage de cerveau. Je crois que c'est des solutions faciles pour donner un confiance peut-être aux...
Alors, je vais vous dire pourquoi. Vous avez, moi, je vous donne à 150% raison. Cependant, le problème, on est devant le dilemme suivant. C'est que on ne peut pas dire, moi je ne peux pas dire, évidemment je vais voir les Lubavitch, franchement, c'est inimaginable de penser que...
Ridicule.
Seulement, vous ne pouvez pas dire que toutes les religions ont le même degré de dangerosité, si on peut inventer le mot. C'est-à-dire que, je m'excuse, mais même les témoins de Jéhovah, même la secte Raël, etc., même, comment dirais-je, les Lubavitch, etc., ils ne vont pas poser des bombes, ils ne vont pas... Vous voyez, c'est-à-dire que sur le plan du danger, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas faire un relativisme culturel en disant, voilà, c'est le même danger, toutes les religions... Non, moi je m'en fiche, la religion qui adorerait l'oignon... Ben, je m'excuse, c'est quand même moins dangereux, ou ceux qui se baladent dans la rue, là, le crâne rasé, les disciples de Krishna, en faisant des petites clochettes, ben, ils présentent pour moi moins de danger que quelqu'un qui va adhérer à l'islam pour des motivations de djihadisme, de djihad, etc. Ça me paraît très, 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 très dangereux. Il faudrait que montent au créneau les musulmans et qu'ils disent « enlevons les passages » qui sont des passages contestables dans le Coran. Et là, je croirais leur bonne foi. Disons que le prophète a eu un comportement pendant sa vie qu'on ne peut pas imiter. Seulement le problème, c'est que même si certains le disent, il y aura toujours des gens qui auront une lecture littérale, et s'ils sont seulement 1% de 1,5 milliard de musulmans, vous voyez ce que ça fait comme nombre, même s'ils ont bien 0,5. Vous voyez, c'est ça qui paraît un danger. C'est ça que je dis. Le Coran, en appelant à la destruction des mécréants, ça ne devrait pas exister, ça. Parce que, alors, on me dit, mais dans le judaïsme aussi, on dit attention, etc., il y a des sanctions. La menace de sanctions dans le judaïsme. Mais elles ne sont pas appliquées. Citez-moi des tribunaux rabbiniques de Sanhédrin, etc., qui sont actuellement. Alors qu'à chaque fois que l'islam arrive au pouvoir, que ce soit en Iran, que c'est en Arabie, que c'est les talibans, ils remettent en application le droit musulman. Et vous avez des mains coupées pour le voleur, les femmes adultères qui sont ou fouettées ou lapidées. Vous voyez? C'est-à-dire que les sanctions sont applicables directes si l'islam est au pouvoir. Et c'est ça qui est grave. Vous avez le Coran, où ces peines sont mentionnées, sourate 5 pour le vol, etc.,
le vol 24
pour les peines de pouvoir. Il y a l'exemple du prophète, qui a bien pratiqué ceci, et le troisième palier, c'est le droit musulman, vous voyez, c'est-à-dire la loi, l'application de la charia. Et ces trois étages se donnent la réplique, si vous voulez. C'est comme une maison à trois étages. Ça redit la même chose. Le droit, c'est simplement l'application des peines sur la terre. Et c'est vrai que c'est pas appliqué par tous les régimes parce que, ben, parce qu'il y a eu la colonisation, parce que tous les gouvernements, ben oui, ils hésitent à l'appliquer. Mais si vraiment tout est appliqué à la lettre, eh bien, je puis vous assurer que vous aurez, les voleurs auront la main coupée. Ce sera exactement ou l'Arabie ou l'Iran comme modèle.
Madame Delcam.
Oui.
Je suis déçu, mais faut se quitter.
Voilà. Alors, et c'est la dernière séance, je serai prête à pleurer.
Ben, je trouve ça plate, moi aussi. J'aimerais ça continuer.
Mais, ben, c'est bien. J'espère que... Est-ce que franchement, les auditeurs ont aimé notre intervention?
Ah, je suis persuadé qu'ils ont même plus qu'apprécié.
Voilà, on essaiera toujours... Alors, ce qu'on peut leur dire, c'est que ce qu'on avait fait au début, c'est-à-dire ne jamais quitter la langue arabe, ne jamais quitter les textes, tout en, pour ne pas les lasser quand même, tout en prenant quelques exemples concrets.
Voilà.
Mais ça sera toujours notre méthode.
Voilà. Madame Delcambre, je vous souhaite un excellent été.
Merci.
Je vous demanderai peut-être de souhaiter aussi un excellent été au nom d'Anne-Marie Delcambre à tous les auditeurs et au nom de Rockik.com.
À tous les auditeurs, je les ai beaucoup aimés et je n'interviens que sur Rockik. Rockik.com, je vais du site à Rockik et du Rockik au site. Je retourne dans ma niche et après je reviens à Rockik.
Voilà, alors troisième semaine du mois d'août, on recommence ensemble et en force. Comme à l'habitude, on s'en va se ressourcer, on s'en va se faire du bien, on s'en va se reposer.
De toute façon, vous avez fait des progrès en arabe déjà.
Oui, on s'en vient pas si mal. Jonathan aussi est bon de son côté.
Ah oui, oui. Oui, j'ai vu ça.
On travaille.
Une bonne analyse philosophique.
Tout à fait. Tout à fait. Jonathan prend le compliment. Il y a une chose qui est sûre, Mme Delcambre, c'est qu'on va continuer à botter les culs et on invite aussi les gens à lire les livres de Mme Delcambre. Pourquoi pas? Pourquoi
oui,
pas?
Les livres et d'autres aussi. Bon, c'est ça. C'est-à-dire. Je pense qu'ils verront que, enfin, en réfléchissant, en leur ayant donné des clés, ils pourront voir que ce qu'on dit n'est pas totalement stupide.
Merci Anne-Marie.
Merci. Au revoir Ismaël.
Au revoir Anne-Marie.
Au revoir.
Salut bien.
Au revoir.
Au revoir. C'était Anne-Marie Delcambre.
Les autres disent tout. Merci. En attendant. Restez en communication avec elle. Liberty Vox, allez sur le forum, elle est là. Allez,
Francisco.
Pour émettre un commentaire ou joindre les animateurs en ondes, c'est simple.
Allô? Allô?
Ouais. Je pense que ça irait plus vite par MSN. Live@rockik.com, la meilleure façon de nous joindre en tout temps.
Le matin, au www.rockik.com, on start en force. De 9h à 1h, c'est Wake Up avec Ismaël Trépanier et Jonathan Bouchard.
You're gonna feel my pain. Rockik.com.
C'est pas que là, c'est rendu un peu gros qu'on est en train d'exploiter un enfant.
Ouais. Mais la question qu'il vient de dire là, est-ce que vous trouvez... Il a été poli, là. Il est poli.
Oh oui.
Il est très poli. Vous allez voir c'est quoi qu'un homme qui pense rien qu'à ses scènes va répondre comme truc complètement lâche et imbécile. Un petit mot peut-être à rajouter, Jonathan.
Oui, il disait un peu, vous trippez encore ce pauvre Jérémy? Oui, ben, c'est parce qu'il y a un animateur de Radio Montréal qui a eu le guts de confronter un peu tout ce phénomène-là, Jérémy. On s'organise pour que le mot se passe.
Pour une des rares fois. Il faut que le mot se passe et qu'on arrête d'abuser des handicapés. Ça, c'est clair, là?
À partir d'une heure, les gars de Hard Sports prennent les commandes. Et Christian Dallaire vous offre, via leur collaborateur invité, le seul show de sport controversé à Québec.
Les Américains qui sont en train de nous voler notre sport national. C'est brillant. On a un commissaire qui porte pas ses culottes. Et j'aimerais donner une palme à une personne ici qui a décidé de porter ses culottes comparativement à un imbécile comme Batman qui n'est pas capable de le faire. Je l'ai déjà applaudi, cet homme-là. Et là, j'ai envie tout simplement d'y botter le cul. C'est pourtant clair!
Pis la musique. Rien à voir avec les autres. Look out! Rockik.com.